Ah, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dois faire. Dieu est capable de tout, il fait toutes choses. Lui, il est au top dans ce qu'il doit faire. Tandis que nous, nous manquons parfois dans nos engagements. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je dois faire pour changer. La deuxième chose, c'est qu'il fallait découvrir et entrer dans notre identité d'enfant de Dieu. Et vous vous souvenez, je pense que beaucoup m'ont rappelé que la prédication de Matthieu était vraiment importante à nos yeux, qu'il nous fallait sortir de notre esprit d'orphelin, de notre identité d'orphelin, et entrer dans notre identité d'homme et de femme du royaume de Dieu. Et nous avons même fait des exercices dans des petits groupes où nous avons rempli le petit questionnaire pour nous rappeler ce qu'était être un orphelin et ce que nous devions faire pour y rentrer. Ensuite, faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Clairement, il y a une parole prophétique qui m'a été apportée, qui m'a été donnée cette semaine. Je reviendrai peut-être dans quelques semaines. Je vais travailler là-dessus. Apporter sans doute un ou deux messages concernant ce qui avait été apporté. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui m'avait frappé. C'est que dans cette parole prophétique, Dieu disait et nous invitait à nous comporter comme des fils et des filles. Dans notre identité de fils et de fille. Exemple, si je dis que je suis chrétien, c'est que je suis enfant de Dieu, par extension, d'accord ? Mais si ma vie n'est pas en corrélation, il n'est pas dans la correspondance de ce que Dieu veut pour moi, je dois me poser la question. Si je n'ai pas changé, si rien ne change de ma vie, je dis à ce moment-là que je suis chrétien, mais je ne me comporte pas comme un enfant de Dieu. Et enfin, chercher le cœur de Dieu. Et je vous avais invité de prendre du temps pour le chercher, dans la prière et à travers sa parole. Et puis, faire la guerre contre l'esprit religieux, pas l'esprit religieux qu'il y a dans la vie de ton frère et ta sœur, ça c'est le Seigneur qui s'en occupe, mais faire la guerre dans l'esprit religieux de ta propre vie. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne vais pas refaire la prédication, mais vous pouvez retrouver tous les détails de tout cela sur le site internet. Et enfin, réparer la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, que Dieu voulait vraiment réparer, que des choses avaient été brisées en nous. De par notre vie, notre expérience, il y a des choses qui ont été brisées et Dieu voulait réparer cela en nous. Et je reste persuadé que c'est un vrai chantier que Dieu a commencé en chacun d'entre nous. Et puis, alors, la troisième partie maintenant, c'est que nous continuons avec le roi Josias. Josias, c'était un roi réformateur, quelqu'un qui est tout petit. Il arrive au pouvoir très jeune. Hein. Il a l'âge des enfants, pas là-bas, mais là-bas plutôt. 8 ans, je crois, il arrive au pouvoir et tout de suite, il va faire toutes ces choses. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que changer, il ne faut pas attendre qu'on ait 70, 80 ans pour changer, mais il faut commencer dès maintenant. Le changement, c'est maintenant, dit-il. Et la chose qu'a fait par la suite Josias, c'est qu'il a fait de l'adoration une priorité. Il a mis en priorité l'adoration. Et regardez ce qu'il est écrit. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de deux hommes, lévites, d'entre les fils de Merari et de Zacharie de Meshulam. D'entre les fils des... Oh, c'est trop compliqué. Tous ceux des lévites qui étaient d'habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Vous voyez qu'ici, il y a une association entre ceux qui ont un talent musical et bâtir. Ils sont en train de bâtir, ils sont en train de reconstruire des choses et en même temps, il y a l'adoration qui prend place. Et nous avons fait dans cette communauté une priorité de l'adoration. Et nous avons choisi de faire de cette communauté une communauté qui adore en esprit et en vérité. Parce qu'il y a une clé dans le fait de bâtir quand une communauté adore. Il y avait d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Je ne peux pas dissocier ma vie de disciple à l'adoration. L'adoration doit être une priorité dans ma vie. Adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je ne peux changer sans être un adorateur. parce que je sais que lorsque j'adore, ça attire Dieu, ça amène Dieu dans ma sphère, dans mon environnement. Et je l'ai dit, parce que Léa me l'a rappelé lors d'un petit groupe, enfin pas un petit groupe, un bibliogroupe à la maison, elle a dit, je sais que lorsque je trouve Dieu, je trouve qui je suis. C'est-à-dire que lorsque je suis face à Dieu, je le vois, mais je le vois, enfin, je comprends qui il est et je comprends ce que ma vie doit devenir. Et je ne peux pas bâtir ma vie sans l'adoration. Par exemple, dans Néhémie, la muraille est terminée. Vous savez ce qui va se passer ? Ils vont inaugurer la muraille. Jérusalem est de nouveau réouvert, si je puis dire. Et vous savez, la chose qu'il va faire, il va y avoir deux chorales. Deux chorales qui vont chanter. Il paraît qu'ils vont chanter si fort, que ça va s'entendre dans tout le pays. Autrement dit, tu as là déjà une clé pour ne pas tomber. Tiens-toi à la rampe. Tu as déjà là une clé pour, si tu veux comprendre ce qu'est l'adoration, tu dois comprendre que l'adoration, ça s'exprime, ça se dit. J'ai aimé tout à l'heure, franchement, j'ai aimé, mais spirituellement aimé, Doriane, lorsqu'elle a commencé à proclamer des choses. Avez-vous vu l'impact que ça a eu sur la communauté ? L'impact que ça a eu dans la vie des gens. Les gens ont commencé à prendre conscience. Et d'une manière naturelle, les gens ont commencé à applaudir, à élever, à glorifier Dieu. La présence de Dieu était presque palpable à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Et face au découragement, et là, je veux parler aux personnes qui sont découragées en ce moment. Y a-t-il des personnes découragées en ce moment ? Ah, je suis le seul. Je vais prêcher pour moi. Donc, face au découragement ou même des fois la perte d'enthousiasme. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'enthousiasme ? Oui. Pourquoi on perd de l'enthousiasme ? Parce que notre chemin de vie est un chemin jonché de difficultés. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, nous puissions manquer d'enthousiasme. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Hein. On n'est pas des super spies. On n'est pas des chrétiens qui fonctionnons à la méthode Coué, c'est « je vais bien, tout va bien ». C'est pas ça. Nous comprenons en tout cas que dans notre chemin avec Dieu, il nous faut parfois persévérer, que nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des problèmes dans nos vies. Et face au découragement, la solution, c'est l'adoration. C'est pas d'appeler le pasteur pour qu'il te dise « prie pour moi ». Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. C'est biblique en plus. Face au découragement, à la perte d'enthousiasme, mon remède, c'est l'adoration. Et je veux vous donner un petit exemple. Les Israélites sont sortis d'Égypte, et puis à un moment donné, ils l'endurent. Je comprends. Et ils commencent à murmurer contre l'autorité. Ils murmurent contre Moïse. Et c'est là où ils vont se faire mordre par les serpents. Et tous ceux qui regardent le serpent, le bois, qui est le morceau de bois qui est tendu par Moïse, qui était un serpent d'airain, c'est pas en bois, c'est en airain. Tous ceux qui regardent le serpent et qui sont mordus sont sauvés. C'est une belle image de Christ, mort pour nos péchés. C'est vraiment une belle image. Parce que le péché nous ronge, c'est comme le serpent, c'est l'image de Satan qui veut vraiment nous amener à la mort par le péché. Donc ils vivent vraiment un temps difficile et extraordinaire à la suite de cet événement. Vous savez où Dieu les dirige ? Lisez Nombre chapitre 21, dans le désert. Dieu sait, il voit que c'est le découragement, que c'est la difficulté qui les a poussés à murmurer. Il règle le problème du péché derrière. Et derrière, il les amène dans le désert. Et il y a des personnes qui se disent pourquoi je suis dans le désert ? J'ai reçu Christ dans ma vie. Mais parfois, il y a des chemins où Dieu nous mène qui sont des chemins de désert. Et vous savez ce que Dieu fait et ce que Dieu ordonne ? Il dit, tu ordonneras à tous ceux qui ont un sceptre et à tous ceux qui ont un bâton. Ça représente l'autorité. Tous ceux, tous les nobles, si je peux dire, tous ceux qui avaient une autorité, tu leur diras de creuser un puits. Ils creusent un puits avec leur propre bâton, avec leur propre sceptre. Ils creusent et ils y vont. Et dans la terre sèche, ils creusent. Et vous savez, au même moment, le peuple adore Au même moment, le peuple se met à adorer, à glorifier Dieu, à élever le nom de l'Éternel. Et vous savez ce qui se passe ? Dieu dit, j'ordonne que l'eau vienne maintenant. Face au découragement, tu dois prendre ton autorité. Et face au découragement, tu dois creuser. Parce qu'il y a parfois des fleuves qui nous arrivent comme ça. On n'a pas besoin de creuser, mais parfois on a besoin de creuser pour aller boire. Et Dieu est en train de te dire ce matin, si tu es découragé, tu peux peut-être demander le ruisseau parce qu'il a promis ça. Tu peux demander l'eau de la vie parce qu'il va te le donner. Mais peut-être que tu as besoin de persévérer et d'aller creuser dans ton propre désert et de chercher sa face à coup de parole de Dieu par l'autorité que tu as donnée. Et regardez ce qui s'est passé. C'est le peuple entier a bu. Quelques hommes qui avaient une autorité creusent, le peuple entier boit. À chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a une autorité, vous savez que vous avez tous une autorité dans votre sphère d'influence, dans votre propre famille. Tu es père de famille, tu as une autorité. Tu es responsable d'un petit groupe, tu as une autorité qui est déléguée par Dieu, déléguée par l'autorité de l'Église. Moi, dans ma sphère d'influence, qui est l'Église, j'ai une autorité. Et Jean-Luc, là aussi, en tant qu'ancien. Et vous savez ce qu'on fait tous les jeudis soirs, avant la réunion de prière ou le bibliogroupe ? On se voit une heure avant et on prie et on creuse à coups de prière et on creuse. Et on est en train de voir que le peuple est en train de commencer à boire, que l'eau est en train de jaillir. Ça veut dire que face au découragement dans ta propre famille, dans ta sphère d'influence, peu importe, si tu es découragé, creuse. Utilise le bâton que Dieu t'a donné et vas-y. Je n'ai pas d'autre parole d'encouragement que celle-là. Je pourrais peut-être dire, viens, on va prier ensemble après. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut te rendre autonome dans ta sphère d'autorité. Et je le répète, il veut te rendre autonome dans ta sphère d'autorité. Priez pour vos enfants, priez pour vos maris, vos femmes, priez et proclamez maintenant les choses et vous allez voir, les choses vont bouger. Là, donc, je reviens, il fait de l'adoration une priorité. Est-ce que vous êtes convaincus ? Je reviens à ce qu'on a mis en place. 1. Les cultes sont des temps forts d'adoration. Et je le répète, la quantité n'est pas la qualité. Vous avez vu, on a adoré combien ? 30 minutes ? Et 30 minutes où on a pu palper des choses. La qualité n'est pas la quantité. D'accord ? 2. Engagez-vous à adorer chez vous. Écoutez de la louange, de l'adoration. Pendant vos temps de prière, des fois, vous ne savez pas comment prier. Et on est là, comme ça, on arrive dans sa chambre. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Etc. Mettez, maintenant avec les smartphones, vous allez sur YouTube, vous trouvez des chants d'adoration. Louez, adorez le Seigneur pendant ce temps-là. Les plus grands bouleversements dans ma vie, vous savez où ils se sont passés ? Dans ma chambre, alors que j'adorais le Seigneur. Alors, je ne suis pas l'exemple parfait, mais en tout cas, il y a matière à les réfléchir. Et puis, engagez-vous dans les autels d'adoration. On a mis en place des autels d'adoration, on n'en fait pas souvent, mais engagez-vous, venez aux autels d'adoration. Et que l'adoration ne soit pas « pour moi, Seigneur, pour moi, pour moi ». Vous savez, adorer, c'est donner à l'Éternel. On a fait un gros travail. On s'est dit maintenant, notre adoration, ce n'est pas « oui, j'ai besoin que tu me remplisses ». On en a parlé tout à l'heure, on a chanté un chant qui s'appelle « Abrite-moi ». Mais avant, nous avons chanté « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Nous avons proclamé qui était l'Éternel. D'accord ? Donc, l'adoration, vous retenez ? Interrogation écrite à la fin. Ensuite, comment changer ? Il a réaffirmé la priorité de la parole de Dieu. Écoutez bien ceci. Le sacrificateur trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la loi, les rouleaux de la loi étaient planqués dans un coin. On ne les lisait même plus. Peut-être qu'il y a des Bibles qui sont roulées chez vous, qui ont besoin d'être remises au goût du jour. Bible ou peu importe, smartphone, où vous avez de l'application Bible dessus, peu importe. Mais il faut réouvrir la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Shaphan apporta le livre au roi. Et Shaphan le lut devant le roi. Vous imaginez le roi qui reçoit le sacrificateur et il est en train de... On lui lit la loi. Et lorsque le roi entend les paroles de la loi, il déchire ses vêtements. Vous savez pourquoi il déchire ses vêtements ? Parce qu'il y a une différence entre sa propre vie, entre la vie de ce qui se passe dans son pays et ce qu'il entend. Ça fait écho dans son cœur. Il est en train de se dire, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. Je ne peux pas continuer à être cet homme-là. Et il déchire ses vêtements. C'est un signe vraiment de contrition, un signe de repentance. Il dit, ça doit changer. Et le roi donna cet ordre. Allez consulter l'Éternel pour moi. Et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est dans ce livre. Ce qui fait la qualité ici du changement, c'est la qualité de l'écoute. Donc ils écoutent, il y a un respect profond de l'Écriture, de la parole de Dieu, mais la qualité de la réaction par rapport à l'écoute. Et je vous le dis tout le temps, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous connaissons, mais nous serons jugés en fonction de ce que nous aurons mis en pratique par rapport à ce que nous connaissons. Et c'est tout à fait différent. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Nous sommes peut-être une église où on n'est pas parfait sur le plan de la doctrine, pas parfait sur le plan de ce qui doit être fait. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que je demande à chaque prédicateur, à chaque personne qui enseigne, et ce que je vous demande de faire lorsque vous enseignez vos enfants, lorsque vous enseignez les uns les autres, c'est qu'est-ce que tu entends ? Ok, mais qu'est-ce que tu mets en pratique dans ta vie ? Parce que moi, les beaux parleurs, j'en ai que faire, je peux vous le dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends et ce que je mets en pratique dans ma vie. C'est pour ça que j'ai demandé aux prédicateurs de faire des prédications plus courtes, de faire des prédications qui soient impactantes, de faire des prédications où la personne sort d'ici, qu'est-ce que je mets en pratique maintenant, le lendemain dans ma propre maison. Le lendemain, pourquoi pas le dimanche après-midi ? D'accord ? Donc l'écoute et le réalignement en fonction de ce qui est lu. Ce qui sera la force pour un changement dans nos vies est la qualité de la réaction. Si tu réagis bien, si tu agis bien, si tu mets un plan d'action, alors je vous le dis, il faut d'abord lire, il faut d'abord étudier et il faut mettre en pratique. Et je peux vous dire que si vous avez des difficultés à lire la Bible, ça marche très bien en groupe. Qui vient au Bibi au groupe le jeudi soir chez nous ? Je veux voir les mains bien levées. On n'est pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Il y a quelques personnes qui viennent. Tous me disent, et je ne vais pas la citer parce qu'elle est présente ici, quelqu'un m'a dit, j'ai des difficultés à lire la Bible à la maison, à la comprendre, et je m'aperçois que c'est riche quand on le fait en groupe, quand on le fait ensemble. Ça fait vraiment du bien. Ça me nourrit. Et je peux même vous dire que moi, je suis épaté et surpris de voir d'apprendre avec des personnes qui ont parfois que quelques mois de conversion, je me dis, mais j'avais jamais compris ça comme ça. Quelle richesse qu'est le corps du Christ. Et vous savez, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, vous savez, son projet, c'est quoi ? C'est qu'il n'y ait plus de prédicateur un jour. Je vous surprends peut-être. Mais c'est que chacun enseignera son prochain. C'est que les gens seront capables de se nourrir les uns les autres. Moi, mon projet, bien sûr, j'aime trop la prédication, mais mon projet, c'est que vous puissiez dire un jour, voilà, nous nous nourrissons les uns les autres. Et nous, on sera juste là pour veiller que ce que vous dites les uns les autres soit correct, si je puis dire. Et puis la troisième chose, donc je reviens, Il a fait de l'adoration une priorité. Il a réaffirmé l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de Néhémie, qui a déjà lu ce livre et qui ne l'a pas lu ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu, par hasard ? Ouais, tu n'as pas encore. Lisez-le. Vous verrez qu'à la fin du livre de Néhémie, je crois que c'est au chapitre 12, il y a quelque chose d'important. Les murailles sont reconstruites et il y a lecture de la parole de Dieu. Ça dure, je ne sais plus, une grande partie de la journée. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que le peuple, à l'écoute de la loi, de la Torah, il finit par se repentir et il renouvelle son alliance avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça que j'ai mis « renouveler son alliance avec Dieu après ». On ne peut pas renouveler son alliance avec le Seigneur si au départ, il n'y a pas le travail de la parole de Dieu, ce travail de labour dans nos cœurs, ce travail de semer des choses dans notre cœur. Puis Josias monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances. Vous avez un premier point. N'imaginez pas un jour vos enfants ou votre femme ou tous ceux qui sont sous votre responsabilité, changez si vous ne renouvelez pas votre alliance avec Dieu. C'est le roi, ça commence par le roi. Il s'humilie, il dit « Je fais alliance avec l'Éternel ». Il s'engage, lui. Et le jeudi, tous les jeudis, Jean-Luc et moi, Jean-Raymond, quand il nous rejoint, tous les jeudis, je peux vous dire, nous renouvelons notre alliance avec l'Éternel. Parce que nous savons qu'il y a une clé. Il y a une clé dans votre propre vie. Quand nous faisons ça, il y a une clé dans votre propre vie. Quand vous faites ça ensemble, dans votre maison, il y a une clé, ça va changer le cours des choses. Il faut renouveler, nous devons renouveler notre alliance devant l'Éternel. Parce que nous avons bien, il y a des choses que nous devons saisir. Qu'est-ce qui rompt une alliance ? Qu'est-ce qui rompt dans le mariage ? C'est quoi ? La trahison, l'adultère, c'est comme si je rompais l'alliance que j'ai faite avec mon épouse si je commets l'adultère. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Mais c'est comme si je le faisais. Et le péché, d'ailleurs, dans certains livres de la parole de Dieu, est souvent la correspondance avec l'adultère. Quand un enfant de Dieu se tourne vers des idoles, se tourne vers d'autres choses, il commet l'adultère aux yeux de Dieu. Et là, si vous pouvez prier pour vos enfants, vous pouvez prier, mais si vous ne faites pas alliance avec l'Éternel, il ne se passera rien. Alors comment fait-on alliance ? C'est simple. 1, je me repens. Je suis conscient qu'il y a des choses de ma vie qui doivent changer. Je suis conscient qu'il y a des choses qui doivent être réparées, qui doivent être changés dans ma propre vie. 2, je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul chemin pour faire alliance avec l'Éternel. C'est Jésus. Ça veut dire que je demande à Jésus de venir dans ma vie et de reprendre le contrôle de ma vie. Et je ne dis pas ça pour des personnes non chrétiennes. Là, je ne pense pas, je pense que beaucoup ici connaissent le Seigneur. Je dis cela pour des personnes qui connaissent le Seigneur. Parce que parfois, nous avons fait des choses où nous sommes éloignés de Dieu. Et il est temps de revenir vers lui. 3, je prends la décision que ma vie ne sera plus désormais dirigée par le péché, mais par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par l'efficacité de sa parole. C'est-à-dire que j'aurai un regard sur sa parole, mais ça, c'est une alliance qui se fait dans le temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, à chaque fois qu'on fait une préparation au mariage, et on en a fait quelques-unes maintenant, à chaque fois je leur dis « Hé, vous allez faire alliance, mais dites-vous bien que vous êtes loin d'être parfait. » Donc ça va automatiquement occasionner des choses. Et 4, je m'engage. Et l'engagement dans le temps, c'est le baptême. C'est ce qu'a fait Nathan la semaine dernière, dans le temps. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance du Dieu de leur père. C'est quand même intéressant, là. Ça veut dire que si moi, j'entre, je fais entrer. C'est-à-dire que si j'entre dans une vraie relation d'alliance avec Dieu, je vais faire entrer des personnes. Autrement dit, je sais, je vais bousculer. Hein. Autrement dit, si je vais dans la rue, je prêche l'évangile, je vous laisse une question à laquelle vous pourrez méditer cet après-midi pendant la sieste, sur votre canapé. Si, imaginons que je n'ai pas ma vie en ordre avec Dieu, et que mon alliance est biaisée, et que je vais dans la rue prêcher l'évangile, croyez-vous que j'aurai une certaine efficacité? Je vous laisse, je vous pose la question. Josias fit disparaître toutes les abominations de tout le pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Josias a ramené son cœur vers Dieu. Il traite une alliance, il fait rentrer le peuple dans cette alliance. On note à la fois l'aspect public de son engagement. Il y a vraiment une volonté de dire devant tout le monde « Je veux suivre l'Éternel ». Il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de honte à le faire. Un leader, un responsable, un père, une mère qui agit comme Josias verra les personnes de son entourage changer. Plus de maturité, plus de stabilité, d'honneur, d'engagement, de responsabilité. En réalité, si cette Église n'a pas une vie concrète d'une véritable alliance avec Dieu, c'est avant tout c'est de la responsabilité des leaders. Je pèse mes mots quand je dis ça. Ça veut dire que si tes enfants ne marchent pas avec Dieu, c'est avant tout ta responsabilité. Oh là, j'ai l'impression que j'en ai secoué quelqu'un là, maintenant. Je vous choque peut-être, mais vous venez me voir après, hein, je vous demanderai pardon. Le travail est le résultat de Josias et de son attitude. On a vu toute la liste. Donc, 9 points. 9 points importants si vous voulez changer. Si vous voulez changer, si vous voulez que ça bouge dans votre vie. 9 points. Et regardez le résultat. Parce qu'il a tout mis en œuvre pour changer. Le résultat de sa propre réforme. Le péché et l'idolâtrie sont éradiqués dans le pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. C'est exactement la parole prophétique donnée à Salomon qui se réalise à travers Josias. Exactement. Ça veut dire que si tu veux que ton pays guérisse, si tu veux que ton environnement guérisse, change, sois un homme, une femme de réforme. Le pays va entrer dans une véritable mentalité du royaume de Dieu. Fini la religiosité. Fini pour dire, on met notre beau costume le dimanche matin. Et puis, on vient lever les mains, adorer le Seigneur, et puis on repart. Et on fait comme on fait d'habitude. Rien ne change dans notre vie. C'est ça l'esprit religieux. Et puis, en plus, quand on voit des gens, des non-chrétiens, des non-croyants, faire des trucs terribles au niveau du boulot, ça, on dit, oh purée, lui, celui-là, c'est un rude pêcheur. Alors que dans notre propre vie, rien n'a changé. Et là, je vois, moi, un homme qui entraîne le pays vers une véritable vie de sanctification. Il y aura maintenant une mentalité de stabilité, une mentalité de persévérance. C'est-à-dire que même quand ce sera difficile, ce peuple ne murmurera pas. Il n'aura pas besoin que l'Éternel envoie des serpents. Il n'aura pas besoin, c'est un peuple qui marche. Oui, je ne vais pas bien. Oui, c'est un moment où l'enthousiasme diminue. Oui, c'est un moment de découragement. Oui, c'est un moment où je suis fatigué. Et alors, je marcherai avec l'Éternel tous les jours de ma vie. Et ce peuple-là, c'est un peuple qui sort d'une situation, je vous le rappelle, en quelques années, pendant tout le temps de sa vie. Il a fallu à peine 15 ans pour changer le cours des choses dans un pays. Et vous imaginez le temps qu'on peut prendre pour changer la mentalité d'un pays ? En 15 ans, ça a changé. Alors moi, si déjà je dois changer les choses dans ma vie, ça doit normalement mettre moins de temps, non ? Parce que je suis responsable de toutes mes actions. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel. Forcément, c'est plus facile, parce que maintenant le peuple est capable de marcher, même malgré les difficultés. Et combien de personnes d'entre nous ont une vie où je sers Dieu, mais j'ai un problème dans ma vie, je me rassois. Vous avez connu ça ? Vous avez marché avec le Seigneur et vous êtes dit, c'est trop dur, je m'arrête. Là, c'est un peuple qui devient stable dans sa manière de servir l'Éternel. Fini les dents de scie, fini les difficultés de marcher ensemble. Et vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles Satan ne veut pas que ce peuple soit réformé. C'est pour ça que les gens sont réactifs à la réforme. C'est pour ça que le peuple de Dieu ne veut pas, dès qu'on lui dit le mot changement, réforme, il ne veut pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une pression satanique pour que ça ne bouge pas. Parce que lorsqu'un peuple commence à marcher comme ça, c'est un peuple qui devient inébranlable. C'est un peuple que l'ennemi craint. C'est un peuple qui gagne du terrain. C'est un peuple qui remporte des victoires spirituellement. Et c'est un peuple qui change le pays. Parce que tant que nous restons en dents de scie comme ça, ça satisfait très bien. Il se voit le dimanche matin, dit Satan. Il est là à la porte, il dit, oh ouais, bon, ils sont nombreux, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur pays ? Ça ne bouge pas, les âmes ne sont pas sauvées, ça lui va très bien. Par contre, lorsqu'il va le voir ce peuple-là marcher d'une manière sûre avec l'Éternel, dans ses convictions, dans ses voies, ben Satan commence à baliser. Il attrape les chocottes parce qu'il dit, ils vont me prendre du terrain. Et je vous souhaite vraiment de rentrer dans la réforme, dans votre réforme, dans la réforme de l'Église, dans la réforme au niveau de vos familles, dans la réforme au niveau de votre sphère d'influence. Il faut que ça change. Le changement, c'est maintenant. Ça doit bouger. Alors, s'il vous plaît, adorez le Seigneur. Faites de l'adoration une priorité. Faites de l'adoration, quand vous venez le dimanche matin, vous dites « Je vais adorer le Seigneur ». Oui, j'ai plein de difficultés. Ma belle-mère m'en fait voir toutes les couleurs. Peu importe, j'adore le Seigneur parce que c'est l'adoration qui va consolider, qui va amener de faire bouger les choses dans ma manière de bâtir l'Église, de bâtir ma vie. Adorez. Ensuite, remettez la parole de Dieu en avant dans votre vie. La Bible. Prenez le temps de la lire, prenez le temps de la méditer. Vous avez des difficultés pour la comprendre, allez dans des petits groupes ou méditez dans des petits groupes ensemble, prenez un petit verset, peu importe, commencez quelque chose. Et troisièmement, s'il vous plaît, renouvelez votre alliance avec l'Éternel. Renouvelez votre alliance avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser il y a 30 ans que tu es encore dans l'alliance. Je pèse mes mots et je dis la vérité. J'ai vu tellement de personnes. Et moi-même, je l'ai vécu des moments dans ma vie où j'ai biaisé un peu cette alliance. Que l'alliance soit ma priorité avec l'Éternel. Et si tu as un problème dans ta vie, si tu as un péché dans ta vie, s'il y a quelque chose qui t'empêche de renouveler cette alliance, c'est le temps de demander pardon à Dieu. C'est le temps de rétablir les choses dans ta vie. C'est le temps de marcher de nouveau avec le Seigneur. Et n'oubliez jamais qu'il était question de Noé. Noé qui est un homme que j'aime beaucoup, pas simplement parce qu'il a cultivé la première vigne, mais c'est aussi parce que c'est un homme qui était intègre. Il dit « Moïse était intègre et il marchait avec Dieu ». Waouh ! Que ce peuple-là marche avec Dieu. Que le peuple de France marche avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.